deux cafés, j'espère. Oh, moi, visiblement, oui. Parce que... Bon, on m'a demandé d'être militaire sur le temps. Donc là, on va essayer de se tenir au temps qui nous est imparti. Je suis ravie d'introduire Philippe Marquis, qui est conservateur, département des Antiquités orientales au Musée du Louvre, et qui va nous parler d'Afghanistan. Tout à l'heure, je disais, apprenons des leçons du passé. Il n'y a pas meilleur cas d'école que l'Afghanistan. 15 ans après la destruction des Bouddhas de Bamiyan, état de la question. À vous, Monsieur Marquis.
Merci, France. Merci, les organisateurs de cette journée très sympathique. Merci, Vincent Michel. Merci, Madame Piriou. Très sympathique parce que je vois qu'il y a encore beaucoup d'étudiants. Et que c'est vrai que le cœur du sujet, il est, et en fait, ce dont je vais parler à propos de l'Afghanistan, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Qu'est-ce qu'on fait après les destructions ? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait après 15 ans ou 16 ans d'aide à un pays qui a du mal à régler sa situation de post-conflit ? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est un peu ce retour sur expérience que j'aimerais faire avec vous, sachant que là, j'ai fait, ça va être vraiment un retour sur expérience un petit peu bancal. Pour une expérience bancale, vous allez le voir, tout simplement parce que mon PowerPoint ne marche pas, donc je vais faire un bricolage entre un PowerPoint ancien et quelques images qui permettront donc d'illustrer mon propos. D'abord, la vraie question, c'est, carte de l'Afghanistan, pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent mal, donc l'Afghanistan, c'est un pays qui fait 650 000 km², donc un petit peu plus grand que la France, avec un patrimoine archéologique extrêmement riche, et avec, malheureusement, si je puis dire, un personnel ou des spécialistes ou des expertises pour gérer ce patrimoine archéologique qui sont quand même extrêmement faibles. Il a été évoqué ce matin à la fois par Alberto Vial, mais cet après-midi aussi par Bruno Favel, le problème de la destruction des Bouddhas de Bamiyan, qui est un peu, si je puis dire, le geste emblématique du troisième millénaire, puisqu'on est rentré dans le troisième millénaire par cette destruction d'un genre un peu nouveau, puisque retransmise en direct, largement médiatisée et à ce titre très choquante. Donc qu'est-ce qu'on fait en 2001 plutôt qu'est-ce qu'on fait en 2002, c'est-à-dire qu'une fois que les forces de la coalition sont rentrées en Afghanistan et qu'il est possible aux archéologues de revenir et d'essayer de continuer à aider nos collègues afghans qui, encore une fois, je pense qu'on l'a dit pour les Syriens, on l'a dit pour les Irakiens, c'est aussi vrai pour les Afghans, c'est-à-dire que les Afghans, pendant toutes ces années de guerre, c'est-à-dire grosso modo de 1979 jusqu'à 2001, ont continué eh bien, à essayer de faire tourner la machine, même si cette machine était dans un état absolument lamentable. Et ce qu'on a trouvé, et le premier constat qu'on a fait, justement, je suis arrivé en Afghanistan en 2004. Mon collègue et ami Roland Besenval, récemment disparu, lui est arrivé en 2002. Et donc, il a fait le premier constat. Il m'a fait venir en 2004. J'ai été, en quelque sorte, comme dirait le colonel Eberhardt, embedded de 2006 à 2014 en Afghanistan, à la fois comme directeur adjoint puis directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, archéologue avec les archéologues afghans, au contact du terrain, au contact aussi de tous les interlocuteurs, aussi bien les autorités douanières, policières que les acteurs du patrimoine. Il ne faut pas se bercer d'illusions. En 2001, 2002, quand le régime des talibans tombe, tout le pays est loin d'être accessible aux archéologues. Et on peut estimer que, grosso modo, je dirais à peu près 20% du pays archéologique était accessible donc aux spécialistes. Vous verrez que malheureusement, le constat qu'on peut faire actuellement, c'est que ces 20% se sont réduits de façon tout à fait drastique. Alors, je vais vous passer une deuxième diapo qui fait écho au premier constat. Eh bien, c'est la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Le grand Bouddha de 54 mètres, le petit Bouddha de 35 mètres, le Bouddha de Kakrak, c'est-à-dire que Kakrak est une vallée qui est perpendiculaire à la grande vallée de Bamiyan, où il y avait un Bouddha de 18 mètres qui avait été restauré en son temps par les Japonais, qui a été aussi détruit. Vous voyez, j'ai mis ces images intentionnellement pour vous montrer que, grosso modo, là où le vandalisme est efficace, il est vraiment très efficace, c'est-à-dire qu'il ne reste rien de ces Bouddhas. Et donc s'ouvrait en 2002 la question qui est une question toujours pendante, est une question qui se pose et qui vient d'être posée d'ailleurs pour la Syrie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde ces espèces de plaies béantes qui sont des plaies mémorielles aussi, puisque c'est l'illustration même de la bêtise humaine, ou on reconstruit? Donc ce vaste débat, il est posé dès 2002, il n'est toujours pas clos. Il est toujours pas clos, pourquoi? Parce qu'effectivement, tout le monde est loin d'être d'accord sur ce qu'il faut faire. Et donc j'ai participé donc pendant 8 ans aux discussions sur faut-il ou faut-il pas reconstruire les Bouddhas de Bamiyan. Et c'est vrai qu'avec à la fois des éclairages de nos collègues japonais, de nos collègues allemands, les collègues allemands qui, je dirais, culturellement étaient très dans la reconstruction. Ils disaient, nous on a bien reconstruit les monuments de Dresde, on a bien reconstruit certains monuments de Berlin, pourquoi ne pas reconstituer les Bouddhas de Bamiyan? Débat sur lequel nous, en fait, Français, je dirais que notre position était de dire, en soi, on enregistre un acte historique qui est la description de ces Bouddhas, les reconstruire, ça serait probablement faire, alors je tire sans aller à faire du Disneyland, et ce serait faire du pastiche, en tout cas, faire quelque chose qui aurait peu d'authenticité scientifique. Et dans ce débat aussi a émergé l'avis de l'opinion. L'avis de l'opinion, c'est-à-dire des gens qui habitent la vallée de Bamiyan, une vallée qui est, pour ceux qui auront la chance d'y aller, une vallée magnifique, mais située à 2500 mètres d'altitude, donc avec des conditions de vie qui sont extrêmement rudes. 2500 mètres d'altitude, en 2016, à Bamiyan, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que le soir, les gens fonctionnent avec des générateurs. Il y a de l'eau courante parce qu'il y a une rivière qui passe au milieu de Bamiyan, mais il n'y a pas tout à l'égout. Il y a des services sanitaires qui sont nettement insuffisants. Et en même temps qu'on avait ce discours de spécialistes, on a eu ce discours aussi avec les gens de la vallée de Bamiyan, avec les autorités. La gouverneure de Bamiyan, qui était une dame extrêmement dynamique et efficace, qui a dit « oui, certes, mais je dois prendre en compte aussi les besoins de mes administrés. » C'est que parmi mes administrés, il y en a certains qui disent « j'ai connu quand j'étais enfant ces Bouddhas, je veux que mes enfants les connaissent. Je veux que de nouveau, en fait, en quelque sorte, dans une démarche aussi un peu, un peu traumatique, de dire « voilà, on efface le passé, on commence comme si de rien n'était. » Donc. Voilà, c'est l'état, en fait. Bon, bien entendu, là, je vous fais un petit raccourci. Mais donc, en 2002-2003, voilà le débat. Que fait-on après ces destructions? Reconstruit-on? Ne reconstruit-on pas? Et puis, qu'est-ce qu'on fait à côté? C'est-à-dire que le Bouddha, la destruction du Bouddha, c'est en quelque sorte l'arbre qui cachait la forêt, qui était la forêt de la dévastation du patrimoine afghan, puisque en fait, très largement, ce patrimoine avait été pillé, en particulier, donc il en est fait allusion par mais les précédents intervenants, parce que pillage, parce que... Alors je passe sur quelque chose qui n'est pas à moi. Continuez sans analyser. Alors, je vais revenir sur ce qui est mon PowerPoint. Alors, vous m'excuserez, il est en anglais parce qu'à l'origine, il était prévu pour Ann Arbor. Donc, du coup, il a cet aspect un peu bizarre. Donc, destruction des Bouddhas de Bamiyan, pillage des sites archéologiques. En voilà une illustration. Ici, il s'agit du site de Bactre. Site qui a été pillé pendant les années 1990-1995, où ont été sortis quantité de vestiges, et en particulier d'éléments architecturaux de la période hellénistique, qui avait été cherchée pendant des années et des années par les chercheurs français, en particulier de la DAFA, sans jamais les trouver. Mais à côté donc de ces pillages qu'on voit ici, ces blocs sortis, ce que les premières fouilles ont montré, c'est que le site avait été pillé en profondeur. Et vous voyez ici les traces de pillage, ces tunnels qui ont été creusés de manière à pouvoir extraire les blocs, extraire tout ce qui pouvait avoir de la valeur, tout ce qui pouvait être vendu. Alors, pillage, destruction des Bouddhas, pillage des sites archéologiques. En fait, en 2002, quand on a commencé à faire le constat de ce qui se passait en Afghanistan, ce qui nous a en fait le plus frappé, et en fait en travaillant petit à petit en Afghanistan, ce qui nous a le plus frappé, c'était l'état de dégradation complète de l'administration afghane, et surtout de l'administration qui s'occupait de la culture et de l'archéologie. Même s'il restait des gens, ces gens étaient sous-payés, démoralisés, et en fait avaient pratiquement aucun moyen d'intervenir. Les premières mesures qu'on a prises, nous, pour le terrain, ça a été leur acheter une voiture. Une fois qu'on a acheté la voiture, ça a été l'entretenir et de payer l'essence, de manière à ce qu'ils puissent circuler sur les sites. On parlait tout à l'heure de gestion de bases de données, de matériel informatique, de Pentium avec des numéros extraordinaires. Le problème qui se posait à nos collègues afghans et qui se pose encore, c'est pas tellement l'ordinateur, mais c'est de trouver la prise pour le brancher. Donc c'est dans ces conditions-là que donc le travail se fait, que la reconstruction se fait, avec une spécificité qui, je crois, être moi qui m'a frappé, faut choquer même par certains égards, qui rejoint un peu certains débats qui ont été ou certaines choses qui ont été évoquées sur la Syrie, c'est la quantité énorme d'argent international qui a été déversée sur l'Afghanistan. Et surtout, la manière assez malhabile dont cet argent a été employé. C'est-à-dire qu'il y a eu une perte en ligne absolument considérable. Et avec, effectivement, des analyses a posteriori qui ont fait froid dans le monde, dans le dos à tout le monde, puisqu'en fait, les évaluations des agents des Nations Unies disaient que, grosso modo, l'argent international finançait à 50% l'insurrection. Donc, pour des raisons pratiques, hein, parce qu'effectivement, la situation de l'Afghanistan actuelle, c'est un gouvernement légal, mais surtout de beaucoup de zones qui sont pas contrôlées. Et dans toutes ces zones pas contrôlées, il y a quand même des programmes des Nations Unies, il y a des programmes de reconstruction. Et les gens qu'on fait travailler, c'est les gens du coin qui sont pour la plupart acquis l'insurrection. Donc, l'exemple que je vous montre de ces fouilles qu'on a entreprises à battre, après les destructions, eh bien, elles sont faites pour l'essentiel avec des gens qui, pour beaucoup, considéraient qu'ils appartenaient à une communauté, que cette communauté elle était positionnée contre le gouvernement. Ça ne les gênait pas de travailler sur des sites archéologiques. Mais bien entendu, c'était potentiellement à terme un problème à régler, c'est-à-dire cette non-correspondance, non-soutien par ces communautés du gouvernement légal. Alors, ça, c'est le constat. Destruction des Bouddhas, destruction extrêmement visible, sites archéologiques pillés, personnel inexistant ou très démotivé, malgré que, par exemple, on a, je pense que c'est alors, je dirais que c'est dans les musées toujours qu'on rencontre les gens les plus admirables, c'est parce que je travaille au Louvre actuellement, mais en tout cas, c'est vrai que le directeur du musée de Kaboul, Omar Khan Massoudi, c'est quelqu'un qui a jamais cessé de faire en sorte que son institution fonctionne, qui a jamais cessé de faire en sorte que les pièces soient protégées au péril de sa vie parfois, et qui a réussi. Donc nous, en 2004, on le rencontre, on travaille avec lui, et donc lui, il a donc dit, très bien, vous êtes là, vous allez nous aider, et on va recommencer. Recommencer à quoi? D'abord, essayer de pallier au plus pressé, peut-être même de façon peut-être un peu symbolique, et le plus pressé, c'était de stopper les pillages archéologiques. Parce que, on a évoqué le cas de la Syrie, le cas de l'Irak. Il est très difficile de faire une évaluation précise des pillages en Afghanistan, mais donc j'y suis resté pendant 8 ans, j'ai vu pas mal de sites, je n'en ai vu aucun qui n'ait pas été pillé. C'est-à-dire que, grosso modo, tout le patrimoine archéologique de ce pays a été plus ou moins entamé par les pierres. Par endroits, il a été complètement détruit. Par endroits, et l'endroit le plus emblématique est peut-être le site d'Ayranoum, un site d'Ayranoum qui se trouve dans le nord de l'Afghanistan, qui est une cité grecque qui a été fondée au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est en fait extrêmement symbolique. Hein. C'est la colonie grecque la plus orientale, donc qui en termes de patrimoine parle à tout le monde. Elle parle aussi bien à nous, Européens, qu'elle parle à tout ce monde qui a été influencé par la culture grecque, mais aussi par la culture indienne, puisqu'en fait, dans cet endroit d'Ayranoum, perdu sur le bord de l'Oxus, eh bien, philosophes indiens, philosophes grecs se sont rencontrés. On a des preuves, on a des textes, hein, on a des maximes delphiques d'un certain Cléarque qui part des bords de la mer Égée et qui vient s'installer sur les bords de l'Oxus pour réfléchir à la sagesse delphique, mais aussi indienne. Donc voilà, c'est un endroit extrêmement symbolique, mais complètement détruit par les pillages. Donc, que faut-il faire ? L'urgence qu'on a identifiée, nous, c'était effectivement de stopper les pillages. Et comment stopper les pillages ? Eh bien, la solution qu'on a trouvée, c'était de reprendre des fouilles. En l'occurrence, de reprendre les fouilles sur cet endroit dont je t'ai montré une photo, à Bactre, dans le nord de l'Afghanistan. Bactre, qui est un endroit extrêmement symbolique, aussi bien pour l'histoire des fouilles de l'archéologie en Afghanistan, puisque c'est là où, en 1922, les archéologues français ont fait leurs premières fouilles, mais pas uniquement, parce que c'est une capitale culturelle ancienne extrêmement importante. C'est l'endroit où Jalaluddin Rumi, qui est le plus grand soufi, si je puis dire, est né. Donc Rumi, c'est en quelque sorte le cher des Mevlevi, qui est ce qu'on appelle les derviches tourneurs, hein, dont l'influence culturelle dépasse très largement l'Afghanistan et l'Iran, puisqu'en fait, on peut considérer que de la Turquie jusqu'à l'Inde, il est considéré comme un maître spirituel, hein, donc qui, au XIIIe siècle, part de cet endroit. Mais c'est aussi un endroit qui nous parle aussi pour d'autres raisons. Bactre, c'est la ville qui a été fondée par Caïn. Caïn, c'est peut-être la seule chose bien qu'il ait fait, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est que la légende transmette ça, ça montre qu'effectivement, cette proximité culturelle et intellectuelle qu'on peut avoir avec ces zones-là, elle est finalement très grande. Donc, stopper les pillages à cet endroit-là par les fouilles archéologiques, c'était probablement une priorité. Et comment stopper les pillages? Eh bien, c'est en employant les pilleurs. C'est-à-dire que le choix qu'on a fait, dans toutes les opérations qui ont été faites, ça a été de dire, là où il y a urgence archéologique, on essaye de... là où il y a urgence pour stopper les pillages, on essaye de s'adresser directement à la population des pilleurs, en leur disant, pourquoi vous pillez? Qu'est-ce que vous pillez? Et une fois qu'on a les réponses, on leur dit, ben voilà, nous on vous propose autre chose, on vous propose de vous employer sur les fouilles archéologiques, on va vous payer, ce que vous gagnerez, des supérieurs à ce que vous pourriez gagner dans les fouilles, dans les pillages, parce qu'il faut le savoir, en fait, comme par exemple dans les processus criminels liés à la drogue, généralement, les producteurs sont les plus maltraités. C'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent le plus et qui sont le moins payés par rapport aux plus-values que peuvent réaliser les trafiquants. Donc voilà, c'est sur ce discours-là, mais pas ce discours-là uniquement, que effectivement on a pu mettre ces opérations en place. Et puis donc démarrer des fouilles. Et là, bon, sur cette opération, sur Bactr, sur cette partie du nord de l'Afghanistan, eh bien, les gens ont compris qu'effectivement, leur intérêt était plutôt d'être associé à des opérations de protection du patrimoine que continuer à piller ce patrimoine. Une des solutions aussi qu'on a essayé de mettre en œuvre, et c'était, pour les musées en particulier, d'aider à la reconstitution des collections. Déjà, de faire un petit peu d'ordre dans le musée national de Kaboul, qui avait été donc, encore une fois, en première ligne, si je puis dire, parce qu'il était même trouvé sur la ligne de front. Il partageait avec ça l'histoire du musée de Beyrouth. Et musée pillé, musée dans lequel les talibans étaient venus casser les statues. Donc, en fait, en 2001-2002, quand mon collègue Roland Besenval, quand Jean-François Jarige, le directeur du musée de Guillemets, arrive à Kaboul, c'est pour voir des caisses dans lesquelles on ne trouve que des statues cassées. Donc, et puis des fichiers, on parlait de la documentation, des fichiers qui avaient été faits très bien dans les années 70, des fichiers à moitié brûlés. Donc là, il y avait un travail urgent qui a été fait, grâce en partie, pas uniquement à la DAFA, mais grâce en partie à l'UNESCO, grâce à des organismes comme celui au destiné duquel préside ma voisine. Et puis donc, petit à petit, dans un premier temps, préparer, faire ce travail d'inventaire, de réinventaire, et puis c'est de savoir... Qu'est-ce qui manque? Alors, les estimations étaient, il y a 70% des collections qui ont disparu. En fait, maintenant, je crois que le travail de réinventaire a été bien fait. Et je crois que maintenant, on peut dire que c'est de l'ordre de 50%. C'est énorme déjà. Mais en fait, c'est quand même déjà un peu plus positif que ce qu'on nous avait annoncé au début. Réinventaire. Et puis, parallèlement à ça, eh bien, travail de formation... formation des personnels, puisqu'en fait, le personnel était un personnel vieillissant. L'équivalent de la direction des antiquités, qui s'appelle l'Institut d'archéologie, n'avait pas recruté de personnel depuis pratiquement 20 ans. Là, il y a eu un travail extrêmement important de redonner confiance à nos collègues afghans, et puis aussi de les aider parmi les jeunes étudiants à sélectionner ceux qui pourraient effectivement venir s'atteler à cette tâche gigantesque. Hein. Et petit à petit, ça a marché. Ça nous a permis de faire d'autres opérations dans des endroits aussi toujours menacés. Je vous montre juste quelques photos d'un site qui se trouve pas très loin de Bactr, c'est-à-dire dans le nord de l'Afghanistan, à une vingtaine de kilomètres. Et donc, qui est un site, qui est un site gigantesque, qui fait à peu près, sur la largeur, ça doit faire à peu près 12 kilomètres, ça doit faire 12 kilomètres sur 7. C'est un site fortifié d'époque achéménide, 7e siècle avant Jésus-Christ, abandonné à l'époque moghole, c'est-à-dire au 13e siècle. Et un site symboliquement extrêmement important, puisqu'effectivement, on y a trouvé un hôtel du feu, qui attestant, en fait, du premier culte zoroastrien dans cette région. Alors, on est en Afghanistan, donc on fait un peu feu de tout bois. Vous voyez que les méthodes pour aller travailler sont extrêmement sophistiquées. Des caravanes d'ânes pour monter le matériel, pour monter les archéologues vieillissants que nous sommes. Et puis, on passe au-dessus des montagnes. Et puis, on exploite ces sites archéologiques. Sites archéologiques qui avaient été aussi malheureusement pillés. Mais bon, en fait, un site archéologique, sauf le cas d'Aïranoun, qui est vraiment une catastrophe, les sites archéologiques ne sont jamais vraiment complètement... Et on peut toujours en fait travailler dessus. Il y a toujours des choses à voir, si je puis dire. On fait un petit peu ce qu'on ferait des gens qui font de l'archéologie urbaine en France ou en Europe, c'est-à-dire qu'on travaille sur des petits morceaux et on essaie d'en tirer le plus grand bénéfice. Alors, nos opérations ne sont pas limitées à ça, puisque donc on a essayé, alors là pour le coup c'est une opération de soutien à nos collègues afghans, qui était de les aider à monter des opérations d'archéologie de sauvetage. Bon, le pillage était un problème, on peut le régler par des fouilles. L'archéologie de sauvetage était quelque chose d'un petit peu nouveau. Et l'archéologie de sauvetage qui se faisait dans un contexte, dans ce qui se fait toujours, dans un contexte de développement un petit peu frénétique et sûrement très mal contrôlé. Et donc, on a pu aider donc nos collègues afghans à monter une opération de sauvetage archéologique sur un site minier qui s'appelle Messaynak. C'est une mine de cuivre qui va être exploitée par une compagnie chinoise. Donc c'est un site qui fait à peu près 2 km², qui est occupé du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle et qui a la caractéristique d'être un site qui est à la fois un site minier ancien, mais aussi, et c'est sur le plan scientifique quelque chose de tout à fait intéressant, d'être un site où les communautés bouddhiques et les moines bouddhistes ont été, semble-t-il, associés à l'exploitation. Alors on ne sait pas à quel niveau ils étaient associés, mais en tout cas, ce qui est absolument fascinant, c'est que eh bien, il y a des monastères bouddhiques qui entourent toute cette zone minière, et monastères bouddhiques avec des très richement décorés. Là, vous avez une tête de statue en argile, mais voilà des peintures murales qui représentent un Bouddha souriant. Donc, cette opération a commencé en 2009. C'est une opération qui a, vous allez voir qu'il y a certaines statues assez monumentales. C'est une opération qui a été très largement financée par la Banque mondiale, supportée par l'UNESCO, bien entendu. C'est une opération commencée en 2009 qui tourne toujours. Et c'est une opération dans laquelle, grosso modo, l'essentiel des archéologues de l'Institut afghan d'archéologie travaillent et sur lequel sont impliqués entre 700 et 400 ouvriers, c'est-à-dire toutes les communautés, si je puis dire, ou en tout cas tous les éléments mâles des communautés vivant dans cette région. Alors voilà quelques éléments, par exemple ici une statue trouvée in situ, qui est une statue d'un bodhisattva qui s'appelle Avalokiteshvara. C'est un site d'une richesse absolument extraordinaire. Hein. Je veux dire, c'est des milliers de statues qui ont été trouvées et qui posent aussi plein de problèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait après, quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on fait après ? Et ça fait partie aussi de ces tâches de mise en valeur de sites. Eh bien, on essaye effectivement à la fois de documenter au maximum un site qui va être détruit, mais aussi on essaye de faire partager cette connaissance au maximum de gens. Et l'idée, c'était de très vite de monter une exposition qui a été ouverte au Musée national de Kaboul. Donc, je vous donne une petite idée du cadre du Musée national. Le Musée national de Kaboul, c'était une ruine en 2002. En 2004, il a réouvert. Actuellement, c'est un musée qui est fréquenté par à peu près 20 000 personnes par an et qui, aux standards locaux, est tout à fait acceptable et qui peut produire des expositions comme celle que vous voyez ici, donc consacrées à ce site en cours de fouille et documentant ce site de la façon la plus complète possible. Ce n'est pas la seule exposition, et je pense que là, on a un exemple tout à fait illustratif de ce qui peut être fait avec des collections de pays en conflit. Ce n'est pas la seule exposition qui est faite autour du matériel afghan, parce que si vous en avez gardé le souvenir, en 2006, c'est ouvert au musée Guimet une exposition consacrée au trésor de Bactriane, qui était donc essentiellement une collection faite à partir des collections du musée Guimet, mais pour l'essentiel des collections venant du Musée national de Kaboul et puis d'objets qui avaient été stockés dans le palais royal de Kaboul, l'ARG. Cette exposition, inaugurée en 2006, est en train, enfin, a pratiquement fait le tour du monde 3 fois, donc est actuellement en Australie. Et c'est une exposition qui a la particularité d'alimenter, si je puis dire, les caisses du Musée national de Kaboul. C'est-à-dire qu'en fait, les recettes de l'exposition sont attribués au Musée national de Kaboul. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, donc le pécule accumulé depuis 2006 est de l'ordre de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars qui vont permettre d'entretenir les collections et aussi de continuer à travailler sur leur entretien. Alors, c'est une question qui avait été abordée, puisque c'est une question qui, à chaque fois, à chaque endroit où cette exposition est présentée, est évoquée. C'est est-ce que vous voulez qu'on garde les objets si vous n'êtes pas sûr de la situation locale. Et donc à chaque fois, les Afghans expliquent, nous, pour l'instant, ça nous intéresse que ça tourne, on préfère pas que ça reste dans les pays qui l'héberge temporairement. Mais ça rejoint un peu cette discussion qu'on a eu sur les safe havens, où, en quelque sorte, l'accueil a une espèce de droit d'asile patrimonial qui pourrait être accordé à certains objets. Donc, des problèmes, en tout cas un constat assez négatif, des solutions mises en œuvre, des résultats que vous voyez, mais après 16 ans d'intervention, beaucoup de choses qui restent encore loin d'être résolues. Beaucoup de choses qui restent loin d'être résolues, parce qu'en fait, même si donc le conflit est passé d'un épisode chaud à un épisode tiède, beaucoup de régions encore du pays, et je dirais même que de plus en plus de régions du pays ne sont pas contrôlées par les autorités gouvernementales. Et ce qui ajoute un petit peu à la complexité de la situation, ce non-contrôle se conjugue à un manque, en tout cas, d'interventionnisme de l'administration dans un contexte de développement, comme je disais pour la mine de cuivre, extrêmement important et extrêmement virulent. Alors, on a un exemple extrêmement problématique pour un site archéologique islamique qui s'appelle l'Ashkari Bazar, qui est dans le sud de l'Afghanistan, dans la province du Helmand, qui est une province qui est réputée extrêmement compliquée en termes de gestion, et dans lequel donc on a une ville islamique qui fait à peu près 11 km de long, 4 km de large, dans lequel les bâtiments sont tellement bien conservés, en voici quelques images, dans lequel le parcellaire urbain est extrêmement bien conservé. Ici, voilà une photo aérienne prise en 2004 ou 2008, et voilà la photo aérienne prise en 2011. Les bâtiments sont tellement bien conservés que les gens sont installés dedans, et on a actuellement entre 6 000 et 12 000 squatteurs, personnes déplacées, excusez-moi, qui sont installées dans ces locaux. Alors, sur des sites comme ça, qui sont loin de la capitale, qui sont des zones réputées peu sûres, on essaie d'intervenir essentiellement en impliquant les communautés locales, c'est-à-dire qu'en fait, avec les agences des Nations Unies, UN Habitat, le programme des Nations Unies pour le développement, on a proposé au gouverneur un programme en quelque sorte de protection du bâtiment contre salaire et relogement. C'est-à-dire l'idée, c'était d'employer à peu près 2000 personnes au nettoyage du site, à la fouille, à la restauration des bâtiments, 2000 personnes qui étaient salariées avec la possibilité pour elles d'acquérir de nouveaux logements. Et je crois que c'est une des spécificités de tous ces programmes dans des zones post-conflit, c'est que à partir du moment où ils n'intègrent pas les communautés locales, ils ont peu de chances de réussir. D'abord pour des raisons de sécurité, mais ensuite parce qu'effectivement, si les communautés territoriales, les communautés locales ne sont pas impliquées, si elles ne voient pas l'intérêt immédiat qu'il y a à protéger leur patrimoine, eh bien, rien ne se fait. Donc, je ne veux pas être trop long, parce que j'ai déjà été un peu long, et je voudrais simplement conclure et rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. D'abord, voilà, ce constat, 15 ans après, 16 ans après, en Afghanistan, il y a des choses qui se sont faites, il y a des résultats, mais il y a encore beaucoup à faire, et des résultats qui sont extrêmement fragiles. Extrêmement fragiles, comme par exemple, en 2013, donc, a été l'année pendant laquelle Ghazni, qui est une grande ville du sud d'Afghanistan, a été capitale culturelle du monde islamique. À cette occasion, a été ouvert un petit musée d'art islamique. Le 4 septembre 2014, le musée a été entièrement ravagé par une attaque kamikaze. Et un certain nombre d'objets de ce musée se sont retrouvés sur le marché. On a arrêté à Hambourg. On a été informé juste à temps qu'un des musées de Hambourg allait acheter une pièce qui provenait de ce musée, quand même, malgré tout. Hein. Donc voilà, donc problème. Problème qui n'est pas facile dans le sens où il y a une très grosse demande des autorités locales à créer des musées. En fait, une espèce de formule incantatoire quand on va voir les gouverneurs qui est de dire bah voilà, j'ai un hôpital, une école, j'aimerais une prison de temps en temps, j'aimerais bien avoir un musée. Donc cette demande, on le disait tout à l'heure, c'est une question qui était abordée, il faut écouter la demande locale, mais il faut aussi, donner à la demande locale une réponse qui soit appropriée. C'est-à-dire faire des musées, oui, très bonne idée. Construire un musée, il n'y a rien de plus facile. Ouvrir un musée, il n'y a rien de plus facile. Le faire fonctionner, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Bon, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer le vrai PowerPoint que je voulais montrer, parce qu'il y avait une photo que je voulais spécialement montrer au colonel Eberhardt, qui est donc liée au problème du trafic des antiquités. En 8 ans de travail au quotidien avec mes collègues afghans, de ceux qui venaient des services de douane, je n'ai jamais vu une pièce authentique. J'ai vu beaucoup de faux, mais jamais d'objets authentiques. Par contre, effectivement, les contacts qu'on a avec les collectivités, eh bien là, effectivement, les gens nous disent au bout d'un moment, tiens, j'ai ça que j'ai trouvé dans mon jardin et compagnie. Donc là encore, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et pour conclure, je dirais, donc on a parlé de beaucoup de choses, on a beaucoup parlé de patrimoine. Béatrice André Salvini a très, très justement mis en exergue l'importance du patrimoine pour les cultures irakiennes, syriennes, et une importance ancienne. Et je voudrais rappeler simplement que dans le monde arabo-islamique, cette notion du patrimoine est une notion extrêmement importante. Les monuments, si je puis dire, fondateurs de la littérature arabe, ce qui s'appelle les Mu'allakat, hein, ce sont des poèmes qui, pour certains, datent d'un petit peu avant l'islam, sont des poèmes à l'exaltation du patrimoine. Il y en a un des plus connus qui commence par ces vers « Kifna wa nibki ala zikriyat » et c'est veut dire « Nous nous arrêtons et nous pleurons sur le spectacle des antiquités laissées par les gens qui sont passés avant nous ». Donc cette notion du patrimoine, de protection, de cette valeur positive du patrimoine, elle n'est pas étrangère à la culture arabo-islamique. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important de dire à l'heure où, justement, d'aucuns essaieraient de faire croire que le patrimoine commence, que grosso modo, aujourd'hui ou hier. Et puis, puisqu'on a un public étudiant extrêmement important, je voudrais effectivement dire quelque chose d'un peu personnel. J'ai commencé à travailler au Moyen-Orient, Béatrice s'en souviendra, c'était il y a... je le dis pas, il y a longtemps, enfin, bref. À une époque où... le Liban était en pleine guerre civile, l'Afghanistan venait de se fermer, la guerre Irak-Iran faisait que ces terrains étaient inaccessibles aux archéologues français. Et je pense que pour vous qui commencez ou qui voulez vous destiner à une carrière dans l'archéologie ou en tout cas dans l'étude du patrimoine des pays du Moyen-Orient, je crois qu'il faut vous dire ça, c'est que malgré tout, eh bien, j'ai été au Liban dans les années 90 pour m'occuper d'un programme qui était le programme de fouilles du centre-ville de Beyrouth. J'ai passé 8 ans en Afghanistan. Il n'y a pas de cause perdue. Il n'y a pas de cause perdue à partir du moment où on décide que les causes ne sont pas perdues. Et aussi, je crois que c'était pour moi, de ce point de vue-là, l'Afghanistan est une très bonne illustration. Il y a un demain à partir du moment où on prépare ce lendemain. Et je le dis d'autant plus que je pense qu'effectivement, le lendemain avait été assez mal préparé pour l'Afghanistan. Je pense que, justement, tout ce qui a été dit sur la Syrie, sur l'Irak, sur ce qui va être dit sur la Libye, je n'en doute pas, mais qui présage effectivement d'un avenir en tout cas un petit peu meilleur. En tout cas, je crois que c'est très important de bien faire ça dans l'idée. Et puis surtout, ben, voilà, il y a des pays qui, malgré tout, je pense au Yémen en particulier, qui, eux, sont sortis un petit peu de l'orbite des préoccupations et qui, là, risquent peut-être beaucoup plus que d'autres pays. Donc voilà, c'est le message à la fois positif et négatif que je voulais vous transmettre et sur retour sur expérience de ce qui s'est fait, ce qui pourrait se faire et ce qui ne s'est pas fait en Afghanistan. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Marquis. C'est très intéressant parce que ça parle de ce dont on a besoin de savoir aujourd'hui. On se prépare pour le jour d'après, nous, en Syrie, et c'est important d'apprendre du passé. L'optimiste en moi adore le fait que vous disiez qu'il n'est pas de cause perdue, et vous avez raison. Tant que nous, on n'abandonne pas, eux n'abandonneront pas, oui, et oui, vice-versa. Et ça m'amène à ce que vous avez dit, ne travaillons pas sans les communautés locales, ne travaillons pas sans eux. Et la question du musée, du développement durable, de l'institution muséale, vous avez tout à fait raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend même dans les pays du Nord qui veulent ouvrir des musées à tout vent. Et on dit, attention, c'est facile d'ouvrir un musée. Il faut, un, le remplir avec des choses qu'on a déjà idéalement et le maintenir. Et la preuve que les musées sont importants dans la notion de patrimoine des pays, le Soudan du Sud de notre mémoire de jeunes personnes, ce sera la première fois qu'on verra un pays se créer. C'est très rare qu'un pays se crée. On a vu le Soudan du Sud se créer, un État se créer sous notre ère. Et la première chose qu'ils ont demandé, c'est de créer un musée national. Ils n'ont pas de musée, c'est un nouveau pays, et c'est la preuve que, et c'est une demande locale, nationale. Et ça, c'est très important, c'est de voir le rôle du pays, de l'histoire, à travers le patrimoine. Merci beaucoup. On est prêt. On m'a dit que c'était Morgan, non?
Oui, oui, absolument. Je vais parler tout doucement. Très rapidement.
Je ne vais pas me gêner avec vous, hein, monsieur Michel. Et de toute façon, moi, j'ai un train à prendre, donc je vais partir à un moment donné, je vais vous laisser.
Ça tombe bien, j'ai le même train que vous. Alors,
monsieur Vincent Michel. Là,
je vais parler vite fait.
Oui, mais je vais vous présenter pendant que vous cherchez votre PowerPoint, vous passez de présentation. Je vais quand même dire que Vincent a été le pilier énergique que vous connaissez du comité scientifique de la création de la liste rouge pour la Libye. Donc, sans lui, on n'y serait pas arrivé. Et c'est assez rare. Nous, on travaille avec la communauté internationale et c'est très rare qu'on a un référent francophone de première main qui est là. Et c'était très agréable de, pour une fois, valoriser beaucoup plus les institutions et les connaissances nationales. Donc, Vincent, Michel, parlez-nous de la Libye.
Merci France, Madame la Présidente. Je vais être bref pour donner un peu plus de temps à Morgan. Mais en fait, l'idée, c'est aussi de montrer un peu une situation qui est assez différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parle de destruction souvent massive, médiatique. Et c'est vrai, pour comprendre en fait la spécificité de la Libye, il est important de revenir, mais très brièvement, sur la situation que l'on connaît avant et pendant cette révolution. Alors, il faut savoir que, et ça je prête ces mots à mon ancien chef de mission, donc André Laronde, qui disait que la Libye est un pays célèbre, mais au patrimoine méconnu. Et c'est vrai que la Libye a été souvent écartée des grands circuits, en fait, des savants du XVIIIe. Il n'y avait que ceux qui connaissaient Hérodote et Pline qui allaient et qui connaissaient la Libye. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ce patrimoine méconnu, ce patrimoine qui a été laissé de côté, eh bien, c'est un patrimoine qui a été, en fait, sauvé. Sauvegardé parce que les gens, en fait, n'avaient absolument pas conscience. Où sont mes touches ? N'avaient absolument pas conscience. Ah bien, on peut mettre en plein d'écran, mais c'est du PC, alors je ne sais pas.
Qu'est-ce que tu cherches ?
Comment on met pour. Ah, super. Oui, donc totalement laissé pour compte, c'est ça que Kadhafi a véritablement fermé les portes du savoir. Alors au mieux, c'était une fierté nationale, au pire, c'était simplement un lieu de casse-croûte, de pique-nique le vendredi, un lieu donc de barbecue. Dans cet état, en fait, policé, bien évidemment, il y a toujours des risques. Alors, il y a eu, justement, alors ce fanatique, mais c'est une sorte d'apax, vous voyez, en 2009, où un guide a tagué, effectivement, donc ces magnifiques fresques et peintures rupestres de la Cacousse, ou bien vol sporadique. On a enlevé, effectivement, donc, une statue de cette victoire navale, on a enlevé également ce magnifique buste d'une saison dans cette mosaïque de sirènes. Mais dans cet état policé, eh bien, les gens se tenaient quand même assez tranquilles. Oui, mais aussi parce que, encore une fois, il n'y avait pas cette conscience de ce patrimoine, pas conscience de la valeur financière également de ce patrimoine. Et également, c'est vrai que Kadhafi n'avait pas besoin du tourisme. Et du coup, c'est vrai que souvent je dis ça, bon, il faudrait que je vérifie à force de le dire, je pense qu'il y avait autant de chambres d'hôtel à Poitiers que dans toute la Libye. Vous voyez, ça ne l'intéressait pas. 93% la Libye vivait donc du pétrole. Donc le tourisme, à quoi ça sert? Alors du coup, le petit commerce illicite d'antiquité est assez limité. Et on n'a pas, en tout cas, ça n'a pas conduit à des détériorations ou bien à des sortes de dilapidation du patrimoine. Donc, encore une fois, je pense que l'absence de tourisme de masse a joué un rôle majeur dans la protection de ce patrimoine. Alors, finalement, À l'inverse, en fait, donc des pays limitrophes, la guerre a épargné le patrimoine archéologique. Et très, très tôt, on a parlé souvent du Blue Shield, du bouclier bleu, ils sont allés sur place et ils ont vu justement un patrimoine qui avait été donc protégé. Protégé, oui, mais aussi laissé de côté. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, et c'est vrai que depuis ce matin, on salue véritablement le courage donc de ce personnel des antiquités et qui, alors, je vous prends l'exemple du site de Leptis, où en fait, il faut imaginer que l'un des conservateurs, avec sa Fiat 500, vous voyez une Fiat 500 ? Vous voyez, c'est pas très grand, une Fiat 500. Eh bien, il faisait des allers-retours pour vider le musée donc de Leptis Magna, et il remplissait justement donc le sous-sol, eh bien donc des réserves de Leptis Magna. Donc voilà, c'est le zèle, c'est l'amour, c'est la passion de gens pour qui, bien évidemment, c'était vraiment une fierté. Et donc, on doit encore véritablement saluer ces initiatives. Donc, les musées ont été hermétiquement fermés. Bien évidemment, certains ont été saccagés. Bon, on peut citer bien évidemment donc, le fameux musée archéologique, le musée national de Tripoli, où vous voyez en fait, il n'y a pas eu tellement de pillages, si ce n'est les symboles de Kadhafi qui ont été tagués, ou bien la fameuse coccinelle donc de Kadhafi, et puis le vol aussi retentissant, hein, le fameux vol du trésor donc de Benghazi. Bon. Qu'on n'a jamais retrouvé. Alors, on le retrouve un petit peu par bribes en Égypte, mais la peur, c'est justement que ce trésor, eh bien, soit refondu. Bizarrement également, cette nymphe, vous voyez, donc cette nymphe qui a été enlevée à la meuleuse. Alors, une meuleuse en plein site de Leptis Magna, c'est-à-dire, il faut un groupe électrogène, enfin, vous voyez, il faut quand même une infrastructure, enfin, quelque chose qui fait du bruit. Bon, voilà. Alors, là aussi, problème de nudité, je ne sais pas. En tout cas, bon, la nudité reste encore en place, donc je ne sais pas non plus. C'est plutôt un collectionneur ou un fétichiste, je ne sais pas, hein, qui est tombé amoureuse donc, de cette Néréide ou de cette nymphe. Également, on peut déplorer le saccage également des tombes, d'un certain nombre de tombes de Jarbouk. Alors, si le patrimoine archéologique a été peu victime des dommages lors de cette révolution de 2011, c'est surtout à partir en fait, du début de 2013 que la situation a commencé à se détériorer. Et c'est vrai que les événements largement relayés par la presse au sujet donc, des exactions commis donc dans le musée de Mossoul, ça a été un traumatisme. Et c'est vrai que pour le personnel des antiquités que j'avais donc, de façon constante au téléphone ou bien par mail ou bien via les réseaux sociaux, il y a eu un traumatisme. Et c'est vrai qu'une peur, bien évidemment, pour leur propre patrimoine, en se disant, mais voilà, on s'attaque à un patrimoine et si jamais la chose arrivait également en Libye, surtout dans un pays où malheureusement maintenant, eh bien, c'est un pays qui est inondé par les armes, inondé par les milices. Alors, les visions maximalistes, on n'en compte pas moins de 1500 milices hein, qui se battent pour le contrôle eh bien, des villes, pour le contrôle des richesses pétrolières. Donc c'est dans cette situation chaotique actuelle, eh bien évidemment, ce sont des facteurs de risque et les risques s'amplifient. Alors, il y a toujours, même si ça s'amplifie, il y a toujours eu justement des graffitis, il y a toujours eu justement eh bien, le fait que sirène parfois ressemble à une poubelle. Et c'est vrai qu'avant la Révolution, l'UNESCO avait dit si vous n'arrêtez pas de transformer la nécropole sirène en vide ordure à l'échelle humaine, on vous enlève justement de la liste. Bon, alors ils ont nettoyé, ça s'est revenu. À la Troune, site sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, là aussi destruction. Est-ce que c'est le vent, comme on dit parfois ? Est-ce que c'est les bambini ? Ou est-ce que c'est un problème de Macol ? Aussi, c'est ce que j'ai entendu. Ou bien aussi une volonté vraiment concrète de détruire. Alors, est-ce qu'il s'agit de détruire quelque chose qui a été fait par des Occidentaux ? Est-ce qu'il s'agit de détruire, en fait, une église ? Là, je ne sais pas. Là, j'avoue, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, on me dit tout est son contraire. Et surtout, on me préserve. On ne me dit pas forcément la vérité, sachant qu'effectivement, enfin, j'ai quand même passé beaucoup de temps à dérestaurer ce qui avait été détruit, et, enfin, etc., etc. Certaines plaques ont été, je les ai restaurées au moins 4 fois. Le plus grave, et c'est vrai qu'il y a en fait deux grands dommages. Le premier, ce sont les actes de vandalisme religieux. Et c'est qu'on en a parlé, en fait. Pour l'instant, les sites qui connaissent les saccages, les destructions, ce sont des mausolées, ce sont des madrassés, ce sont des mosquées, des cénotaphes ou des tombes de saints soufites. En fait, on assiste à une sorte de combat interconfessionnel. C'est entre eux, en fait. C'est un combat entre les salafistes et les soufis. Alors, ça a commencé en juillet 2012 à Derna, puis c'est tout. En Cyrénaïque, il n'y a pas eu de saccage. Ça s'est déporté donc, en Tripolitaine, où là, effectivement, donc, on assiste régulièrement, puisque la dernière, vous voyez, date du 16 mars 2016. Vous voyez, hein, donc c'est tout récent, et à chaque fois, c'est à Tripoli. Hein, donc, ce n'est pas non plus perdu dans la campagne, loin de l'administration. Non, c'est au sein même de Tripoli, de Zlitène, de Misrata, donc de villes importantes. Alors, parfois, eh bien, la population arrive en fait à empêcher les destructions. Parce qu'il faut imaginer les destructions. Ce n'est pas à coup de pioche, c'est à coup de bulldozer. C'est à coup même, et c'était l'exemple de Misran à Tripoli le 16 mars 2016, à coup de roquettes et de bulldozer. Donc c'est, encore une fois, c'est quand même très massif. Là, je vous montre la mosquée du port de Tripoli. J'avais eu la chance de la voir parce que, en fait, l'ambassade de France avait été déportée dans un hôtel qui dominait justement donc, cette mosquée. Donc, avant, après, elle a été reconstruite et puis de nouveau dynamitée, donc fin 2015. Là aussi, vous voyez, donc avant, après. Alors, vous voyez, nous, on adore les archéologues faire avant, après, mais généralement, les photos sont inversées, vous voyez, hein, voilà, grâce à des anastyloses. Ben, là, c'est l'inverse et c'est effroyable, vous voyez. Bon. Mais, encore une fois, il s'agit de mausolées, donc de marabouts, vous voyez, datés entre le 11e et le 12e siècle. Alors, là aussi, on a entendu tout et son contraire. On s'est dit, ah, ça y est, vous voyez cette magnifique nymphe, vous voyez, entièrement nue, donc au centre-ville de Tripoli, caressant une gazelle, servant de source. Elle a disparu. Alors tout de suite, on a dit, ah, ça y est, c'est Daesh qui l'a enlevé. Sauf que, en fait, c'est justement pour prévenir des actes de vandalisme religieux que le département des Antiquités, en fait, a discrètement, eh bien, donc déplacé cette statue. Deuxième fléau. Vous voyez, donc c'est encore indirect. C'est un développement de l'urbanisme incontrôlé. Et là, c'est bien évident. Avant, les gens n'osaient pas bouger, de crainte justement de se faire taper sur les doigts par une milice, par un État très contrôlé, très surveillé, très policé. Bon. Maintenant, le maître mot, et ça pour l'avoir entendu, et avec Loïc on l'a souvent entendu, profitons-en. Ben oui, profitons-en. Ben, profitons-en, parce que, et là je verrai justement avec vous, on verra après. Alors, parfois on arrive avant. Destruction, donc c'est le cas lorsque nous avons repris donc la mission française dès avril 2012, on a pu fouiller et relever une nécropole, enfin une partie de la nécropole occidentale d'Apollonia avant la construction donc d'une maison, et on a eu bien fait parce que la maison a été construite. Ou bien, et c'est pire, et c'est vrai que nous avons les mêmes photos avec Bruno, justement, la destruction d'une partie de la nécropole, donc de Cyrène, où là, encore une fois, voilà, on construit. Mais l'idée, ce n'est pas d'effacer, vous voyez, dans une vision très iconoclaste, la nécropole, ou bien de détruire le patrimoine. C'est pas ça. C'est qu'en fait, les gens construisent là où ils veulent. Et c'est vrai qu'avant, justement, ils ont des titres de propriété. Mais avant, ils n'usaient pas de ce droit de propriété. Maintenant, ils le font. Et parfois, ils le font, bien évidemment, au-delà même des règles. Là, je ne suis pas sûr que vous voyez, cette maison soit à 500 mètres de ce portique, hein, de ce temple de Déméter, donc toujours à Cyrène. Là aussi, vous voyez, avant, après, donc une sorte de ce tumulus, hein, de 13 mètres de diamètre, hop, qui a été donc enlevé parce que, voilà, là, une route allait passer juste à côté et on l'a supprimé. Fouille clandestine aussi. Et c'est vrai qu'on doit tout de même donc mentionner des fouilles clandestines qui, eh bien, vont commencer aussi, eh bien, à intéresser un peu les collectionneurs. Mais je ne parlerai pas beaucoup de ce qui ressort justement de ces fouilles clandestines. Je laisserai bien évidemment la primeur à Morgan de vous montrer tout ça. Mais encore une fois, c'est vrai que on voit que rien n'est toute chose peut être justement vendue et saccagée, comme vous voyez donc ces gravures rupestres provenant donc à Kakous dans le désert, ou bien donc c'est alors là aussi c'était comme étonnant, vous voyez donc il y a quatre têtes du dieu Sérapis qui ont été volées dans le musée de Sabrata. Voilà, il ne s'agit pas d'une commande privée, vous voyez, je comprends pas, parce que Sérapis, enfin, ce n'est pas non plus donc, une divinité majeure. Ça, je n'en parle pas. Et je voudrais simplement parler justement de ce qu'on peut faire, de ce qui est fait. Et là, en fait, j'ai plutôt une note d'optimisme. Pourquoi ? Parce que, en fait, bien évidemment, depuis, donc moi, la dernière fois que je suis allé, c'était en novembre 2013, donc depuis, bien évidemment, le ministère des Affaires étrangères m'interdit d'y aller, de toute façon, il n'y a plus de représentation française officielle, et il s'agit, en fait, on voit maintenant des gens qui prennent en main, en fait, leur pays. Vous voyez, avant, ben, ils ont connu 40 ans de cet État totalitaire, donc de Kadhafi. Ils ont connu à peine une cinquantaine d'années de présence italienne, un siècle de fouilles étrangères. Là, maintenant, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Vous voyez. Et en fait, étrangement, ils sont chez eux et ils ne restent absolument pas en croisant les bras et puis en attendant justement une hypothétique intervention internationale. Pas du tout. Ils ont une soif, alors que ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Irak. Bon, là, de toute façon, je suis sûr qu'il n'y a pas tellement de Libyens parmi nous, mais ce sont des Bédouins. Vous voyez ? C'est la première maison, elle date de 1911. Ben, je dis ça parce que, voilà, il n'y a pas du tout. C'est pas une nation qui est très lettrée, voyez. Alors, évidemment, la France a formé, et on peut s'enorgueillir d'avoir formé des cadres, justement, du département des Antiquités, mais également dans l'université. Mais, voilà, c'est pas cette situation-là. Donc, avec les moyens du bord, eh bien, il s'agit de pouvoir... Donc, ils ont développé, en fait, donc, très tôt, une réflexion autour, justement, eh bien, donc, de ces questions patrimoniales. Alors, là aussi, et ce qu'on Philippe parlait, justement, le grand musée est super, mais enfin, s'ils ne sont pas capables de faire marcher, donc, de changer une lampe, ça sert à quoi, un grand musée ? Voilà. Bon, et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, il y a une législation. La législation existe, mais le problème, c'est de la faire appliquer. On ne peut pas faire appliquer une législation. Donc il ne s'agit pas de trouver une énième loi qui sera ratifiée par l'ennemi. Non, la législation existe. Mais on ne peut pas, justement, la faire appliquer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaye. Alors ça, c'est justement, c'est l'UNESCO qui a organisé un certain nombre de sessions, de formations auxquelles Valentin Perrault et Malika Ratab avaient donc participé, donc le service des douanes. Donc on va essayer de former. Et c'est vrai qu'il y a véritablement une urgence à la formation. Donc, comme disait France, donc j'ai pu, grâce à elle, et à son enthousiasme, et Dieu sait si c'est important d'être enthousiaste. Donc à l'élaboration de cette liste rouge, et l'idée, encore une fois, c'est un outil d'information. Voilà, un outil d'information. L'idée, c'est de sensibiliser, l'idée, c'est d'informer pour mieux lutter, pour mieux contrôler contre, justement, le trafic des biens culturels. Donc, dans un pays de non-droit, hein, l'idée, c'est quoi ? Comment agir efficacement ? Comment agir utilement ? Hein ? Et on pense qu'effectivement, il faut agir en amont quand on dispose de peu de moyens pour lutter. Et donc, c'est à l'échelle de la population. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé, justement, de cette échelle de la population. Et là, on assiste à une renaissance ou une naissance d'une nouvelle génération. Hein ? Ces gens qui sortent véritablement de cette colonisation étrangère, de cette colonisation kadhafienne, vous voyez, eh bien, ont véritablement le souhait de se réapproprier leur propre histoire, leur propre patrimoine, d'impliquer également donc, les populations locales, de leur faire prendre conscience que ces sites sont uniques, que ces sites sont non renouvelables. Et on le sait très bien, hein, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Thucydide. Et pour les archéologues, c'est pareil. Vous voyez, un site qui est fouillé, il est fouillé d'une façon définitive. Donc l'idée, c'est de lutter contre l'ignorance, lutter contre le trafic, mais par l'ignorance, en luttant contre l'ignorance, en sensibilisant le public et en développant un système un sentiment de respect pour leur histoire, pour leur patrimoine, qu'il soit connu ou qu'il soit encore enfoui. Donc, formation. Et là, formation, il ne s'agit pas de former, vous voyez, à tout l'arigot. Et c'est vrai que France insiste beaucoup sur le fait que, voilà, en fonction des spécialités. Alors, c'est que la France, on est très bon pour tout ce qui est médiation. On est bon aussi pour les restaurations. On est bon pour la médiation. Et on est bon également pour l'archéologie préventive. Et bien, voilà, au fond, justement, à... non pas à 10, 15, 20 étudiants ou personnel, eh bien, donc, ces formations, mais voilà, si on pouvait former, et c'est mon vœu pour 2016, puisqu'on avait de l'argent grâce au poste diplomatique, eh bien, de former et à l'INRAP, et auprès de Claude Synthèse et Pierre-Marie Blanc, eh bien, donc, des gens qui vont être, non pas des universitaires, on en a besoin des universitaires, mais surtout on a besoin des gens qui vivent au contact des antiquités. Donc, il ne s'agit pas non plus, encore une fois, de se faire plaisir, mais vraiment de répondre, eh bien, à des exigences. Sensibilisation du public. Vous voyez, ça passe par des choses très concrètes. Les choses très concrètes, c'est cette campagne de nettoyage par des étudiants en février 2016. Vous voyez, ça change tout, vous imaginez. Dans ce chaos qu'est la Libye, où il y a trois gouvernements maintenant, un à Tobrouk, un à Tripoli et un à Tunis, qui normalement devrait revenir à Tripoli pour être reconnu par les deux gouvernements. Bien évidemment, les deux gouvernements en place ne veulent pas le reconnaître. Donc, ça veut dire qu'il y a trois gouvernements en ce moment. Donc, vous imaginez le chaos. Bon. Et d'ailleurs, j'ai reçu tout à l'heure, à 11h24, pour être précis, celui qui devait parler à ma place, le président des Antiquités, qui me dit, pour l'instant, tant que le nouveau gouvernement n'a pas été ratifié, je ne peux pas sortir de Libye. Action de sensibilisation, ça peut paraître dérisoire, mais allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est incroyable. Moi, c'est là où je puise, finalement, et par téléphone et par les réseaux sociaux, tout ce que les Libyens sont en train de faire. Ils postent des photos d'archives, de cartes postales, de paysages. Voilà. Ils vont, à travers justement ce que fait l'UNESCO, cette campagne pour promouvoir et pour défendre justement donc ce patrimoine. Mobilisation donc, de la population également. Vous voyez, donc, ce sont des milices, mais là, des milices privées, pour protéger justement donc, ce grand site de Leptis Magna. Initiative libyenne, encore une fois, il y a très peu de temps. Alors, malheureusement, il a commencé à être formé en France, puis finalement, il est parti à Leicester. Bon, malheureusement. Et il est revenu dans son pays et il a créé un centre de recherche du patrimoine archéologique libyen. Paf, et la première chose qu'il a fait, c'est « aidez-nous ». Donc il a écrit à tous les chefs de mission, voilà, je veux monter donc ce centre de recherche pour créer justement des projets d'urgence. Donnez-moi les moyens. Très peu de temps, donc c'était le 15 février, un observatoire national pour la protection des vestiges dans la région de Benghazi. Vous voyez, encore une fois, tout ça, toutes ces initiatives qui sont faites pour, encore une fois, promouvoir ce patrimoine. Donc, finalement, les vies humaines, c'est effroyable. Tous les jours, moi qui suis abonné Jean-Georges de Presse, je reçois tous les jours, même plusieurs fois par jour, justement, de ces prises d'otages, de ces assassinats plus ou moins ciblés. Mais à côté de ça, eh bien, il y a des gens, il y a des initiatives qui permettent eh bien, de redonner le blason, leur lettre de noblesse à ce patrimoine. Comme la réouverture également, vous voyez, grâce à des fonds UNESCO, du musée de Bani Walid et également un autre musée de Tarouina. Des restaurations également, restaurations après destruction. Alors, je voudrais m'arrêter là, mais il y a aussi tout ce travail qui est fait en lien avec les Italiens et en lien avec les Anglais d'inventorier, bien évidemment. Et ça, les inventaires, on comprend bien que justement pour lutter efficacement, il faut avoir des traces. Et là, bien souvent, vous voyez, même si ils n'ont pas à rougir par rapport à nos musées, je crois que c'était France qui disait ça, bon, il n'empêche que là, sur les cahiers d'enregistrement des musées, parfois, vous avez un objet qui est enregistré trois fois parce qu'on l'a pris, en fait, sous trois angles différents. Alors, on cherche les trois objets. En fait, non, il n'y a qu'un seul objet, mais avec trois prises de vue différentes. Donc, vous voyez, ça renforce justement eh bien, tout cela. Donc, une note d'optimisme pour l'instant. Même si, bien évidemment, Daesh est là. Et Daesh, effectivement, donc, a été délocalisé donc, de Sabratha il y a peu de temps grâce aux Américains, a plus ou moins quitté Derna avec le général Haftar, se polarise effectivement donc, sur le site de Sirte, et attendant justement à descendre en direction des puits de pétrole. Voilà. Donc une note d'optimisme, parce que justement, cette prise de conscience qui n'existait pas avant a préservé donc ce patrimoine. Et c'est maintenant, justement, Libyens eux-mêmes qui, grâce à cette prise de conscience renouvelée, eh bien, prennent en main justement la protection et la valorisation de ce patrimoine. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Quel propos galvanisant. Merci beaucoup.